le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani wa Makar.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le grand dialogue.
Comment renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique à Gao, sur le thème qui sera abordé au cours de ce débat. Studio Tamani s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue en direct de Gao, au cours duquel nous allons en parler de la cohésion sociale entre les différentes communautés dans la région de Gao. La crise de 2012 a entaché l'harmonie du vivre ensemble. Elle a également renforcé la méfiance entre les communautés. Comment mobiliser ces dernières pour la reconstruction de la cohésion sociale dans le contexte actuel du pays? La fracture sociale est-elle préoccupante? Le défi du vivre ensemble et la cohésion sociale peuvent-ils relever à Gao? Le grand dialogue de Studio Tamani réfléchit sur ces questions. Nos invités, Oumou Diallo, secrétaire administrative de la CAFO Gao, Almouner Ag Mohamed Ahmed, leader jeune. Toutes nos tentatives pour avoir un représentant de la communauté arabe sur ce plateau ont été vaines. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Oumou, la première question vous sera adressée. Comment se porte aujourd'hui Gao?
Gao, je dirais que Gao se porte bien du côté de cohésion sociale. Parce que le vivre ensemble auparavant, c'était un peu dérangé avec la crise. Mais actuellement, les femmes de Gao ainsi que les hommes de toutes les couches social arrive à s'entendre et arrive à démarcher les mêmes points.
Almouner, la même question vous est adressée.
Oui, je dirais, je vais rejoindre Mon, comme ce qu'elle a dit, le vivre ensemble, on peut dire qu'il est, il est bien, mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout laisser. Parce que pour créer la cohésion sociale, il faut qu'il y ait des mécanismes de toutes les communautés qui prennent parfois des orientations qui incite nos populations à plus de dialogue, à plus d'échanges, à plus d'entente. Et c'est là, la société dans son ensemble qui va voir quels sont les cadres nécessaires pour vraiment harmoniser. Parce que la cohésion sociale aussi, les communautés, s'ils ne peuvent pas créer un cadre de cohésion sociale, il faut un appui de l'État. Parce que pour l'analyse, la cohésion sociale même, c'est sur un certain nombre de facteurs. Il y a l'inclusion sociale, il y a le capital social, et puis aussi la mobilité sociale. Dans tous ces trois facteurs, c'est à l'État de les organiser. Parce que quand on dit l'inclusion sociale, il faut que tous les citoyens se réfèrent au fait que tous les citoyens ont les mêmes droits dans la vie économique, ont les mêmes droits d'être protégés. Se sentent protégés par, et c'est l'État qui doit protéger ses communautés. Parfois, c'est ça aussi, en vous parlant d'inclusion sociale, c'est surtout ce que l'État encore doit faire dans la cohésion sociale. Il faut que l'État s'implique davantage dans l'inclusion sociale, que toutes ces communautés ont les mêmes opportunités dans la vie économique. Elles se sentent toutes protégées. Maintenant, concernant le capital social, il faut que vraiment l'État investisse dans les communautés. Les communautés ne peuvent rien faire sans l'appui de l'État, parce que c'est l'État qui est garant de la stabilité, c'est l'État qui est garant de la vie économique, parce que parfois la cohésion, elle est créée par parfois un malaise de vivre. Il y a des suspicions, ces malaises de vivre là. Quand l'État est absent, parfois à la moindre des choses, quand la justice n'est pas rendue, quand l'État ne joue pas un rôle sécuritaire, à la moindre des choses, il y a des suspicions, il y a des méfiances. Donc vraiment, c'est à l'État de la communauté à Gao, ça va, la cohésion sociale, mais l'État doit s'engager de plus, doit investir dans cette voie.
D'accord. Oumou, dans votre introduction, vous avez dit que la cohésion sociale a été dérangée à un moment donné lors de la crise de 2012. Comment était la cohésion de la cohésion sociale entre les différentes communautés pendant la crise, en pleine crise?
En pleine crise, les gens se méfiaient l'un de l'autre, vu la situation de l'insécurité qui jaillit en ce moment. Les gens se méfiaient de l'un de l'autre et puis le déplacement n'était pas facile du tout. Tout est sur feu, donc les gens étaient vraiment dérangés à telle sorte qu'on se méfie, chacun se méfie. Les soirées se méfient des Blancs, des Touaregs, des Tamachèques, mais actuellement je dis que ça va. On a pu comprendre que nous sommes tous Maliens et nous sommes tous de la même famille. Donc dans la famille, souvent il y a un peu de querelle et puis ça va quoi.
Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui les communautés parviennent à s'entendre, comme vous le dites, selon votre déclaration?
Les communautés arrivent à s'entendre grâce à des différentes rencontres de cohésion sociale, à des tables rondes, au vivre ensemble, et avec des formations aussi qui a permis aux gens de comprendre la situation. C'est grâce à ça que l'on vit ensemble actuellement.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de méfiance au départ. Alors, aujourd'hui, est-ce que cette méfiance a totalement disparu ou elle est à moitié là?
Je dirais que cette méfiance a totalement disparu. Car on arrive à se déplacer d'un point A à un point B pour faire nos rencontres, pour rencontrer les femmes qui sont jusque dans le Niaï, pour discuter avec eux, pour qu'ils sachent que nous sommes les mêmes. Il n'y a pas eu de différence entre nous. C'est le même Mali et c'est les mêmes enfants du Mali, donc on est ensemble.
On dit lors d'une crise, c'est les femmes qui sont les plus touchées pendant cette crise-là. Est-ce que les femmes de la région de Gao ont été vraiment touchées par cette crise et par la cohésion sociale également?
Bien sûr. Quand on dit que les femmes sont les plus touchées, c'est parce que c'est la couche vulnérable. Quand ton mari meurt, tu es touché. Quand ton enfant est mère, tu es touché. Quand ton enfant n'arrive pas à aller à l'école, tu es touché. Quand tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins, tu es touché. C'est pour cela qu'on dit que les femmes ont été plus touchées que d'autres couches.
Okay. Almouner, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette méfiance entre les différentes communautés de la région de Gao qui vivaient en pleine harmonie auparavant ensemble?
Dans une situation d'insécurité, il ne peut y avoir que de la méfiance parce que chacun voit l'autre comme le problème. Donc c'est dû à l'insécurité, ce n'est pas quelque chose inné aux communautés, non. C'est quelque chose qui est venu avec l'insécurité. Quand il y a l'insécurité, il faut toujours s'attendre à ce genre de choses, qu'il y ait de la méfiance. Mais en temps normal, en temps de tranquillité, il n'y a pas raison de se méfier les uns envers les autres. Dans une situation d'insécurité, il ne peut y avoir que de la méfiance. Maintenant, c'est aux communautés de s'investir. C'est à l'État de les appuyer pour créer vraiment une harmonie. Sinon, l'État a beaucoup... Il y a un capital énorme sur lequel l'État doit s'investir, les liens historiques entre les communautés, parce que les liens sont vraiment très ancestrales. Maintenant, c'est à l'État de capitaliser ces liens-là pour essayer d'appuyer les communautés à créer un environnement pacifique, à vivre dans un environnement pacifique.
Vous avez dit qu'il y a une méfiance, est-ce à dire qu'il y a également des rivalités entre les différentes communautés de la région de Gao?
Non, j'ai pas dit qu'il y a de la méfiance. J'ai dit en temps anormal, il ne peut y avoir de la méfiance. En temps d'insécurité, il ne peut y avoir que de la méfiance. Maintenant, concernant les rivalités, je ne pense pas qu'il y a des rivalités. Non, mais seulement il y a un problème d'insécurité. Et ce problème d'insécurité engendre parfois la méfiance, engendre la colère, engendre les suspicions. C'est dû à l'insécurité seulement. C'est pas dû à des rivalités. Il n'y a pas de rivalité.
Oui. D'accord. Alors, Oumoula a dit tantôt que les communautés arrivent à se parler. Quels sont les mécanismes par lesquels les communautés se parlent?
Mais il y a des cadres de concertation, il y a des cadres, heureusement, les leaders communautaires se connaissent. C'est pourquoi j'ai dit que l'État doit capitaliser les liens ancestraux entre les communautés. Parce que là, l'État doit capitaliser et les communautés même doivent capitaliser ces liens, les liens ancestraux entre les communautés. C'est déjà un avantage. Ça facilite le dialogue. ça facilite le dialogue. Donc ces mécanismes-là, les leaders communautaires, les leaders religieux, parfois, à un moment, je me rappelle, une fois, il y a eu un truc, je ne sais pas, un braquage qui a mal tourné. L'imam, l'autre, là, ces messages ont vraiment été très utiles. L'imam de Alpha Omar, il a appelé, il a agi. Et ces messages ont vraiment servi. Ces messages ont vraiment servi à éteindre vraiment...
L'imam de la mosquée Koweït.
Koweït, oui, oui.
De Gao.
Je me rappelle très bien, c'est pas en 2002, en 2020. Oui, si je ne me trompe pas.
Est-ce que ce genre de message continue à être vulgarisé par les plus hautes autorités ou les leaders religieux de, ce, de cette localité?
Les leaders religieux, les leaders de toutes nos communautés, parfois, c'est leur travail d'appeler à l'entente, d'appeler à la cohésion, parce que personne n'a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de cohésion. Bien vrai qu'il y a les problèmes, quand je dis l'insécurité s'est greffée. Quand l'insécurité s'est greffée, c'est pas seulement la méfiance ne se trouve pas seulement entre communautés, parfois intra même communautaire, parce que tu peux voir quelqu'un de ta même communauté comme problème, comme source de problème. Donc parfois la cohésion là, même intra communautaire, ça peut y arriver. Donc c'est pas il y a pas un problème entre les communautés, mais il y a le problème d'insécurité qui s'est greffé. Et quand il y a ce problème d'insécurité, vous voyez toujours l'autre. Peut-être c'est un potentiel danger, c'est un potentiel problème.
D'accord. Alors, Oumou, vous avez dit qu'il y a les gens de Gao arrivent à se parler. Dans le fait, concrètement dans les faits, quel est l'impact de ces médiations? Est-ce que la médiation, l'impact de la médiation est visible sur le terrain, dans les faits?
Bien sûr, l'impact de la médiation est visible, car je dirais toujours de continuer avec la médiation, parce que rien ne vaut la médiation. Même si on prend les armes, tout finit par la table ronde. On doit s'asseoir pour se mettre, s'attendre et pour faire le vivre ensemble. Donc toujours continuer à faire des médiations, à faire des tables rondes, à faire des formations, des informations, pour que vraiment les gens arrivent à se mettre sur pied.
Al-Mouner disait tout de suite que les communautés au niveau de l'intracommunautaire, ils se voient comme potentiel danger. Est-ce que c'est le même cas que vous avez vécu également?
Que
au niveau de entre les communautés elles-mêmes, entre les différentes communautés intracommunautaires, chacun se voit comme un potentiel danger pour l'autre.
Moi, ma compréhension, je dirais qu'il a dit que ça c'était en temps de crise. En temps de crise, mais quand tu as du feu dans ta case, qu'est-ce que tu fais? Tu sors, tu laisses ta case, il n'y a personne dedans que Al-Mouner ou bien un autre. Tu viens, tu trouves du feu dans ta case. Tu demandes qui a mis le feu. Chacun dit que ce n'est pas lui. Et toi-même, tu te poses la question, est-ce que c'est Al-Mouner ou bien c'est telle personne? Tu te poses d'abord la question. Mais quand tu arrives quand on arrive à atteindre le feu et qu'on arrive à se mettre, à s'entendre, dialoguer et dire que vraiment c'est tel problème, donc on a qu'à laisser ça. Seulement les gens vont aller ensemble. D'accord. En temps de crise, là, il y avait du feu ici à Gao.
Le temps juste de rappeler à nos auditeurs tous les bruits qu'ils entendent au fond. Ces bruits-là font partir de ce débat puisque nous sommes en plein air de Gao. Allez-y, continue.
Ok. Donc c'est pour dire qu'en temps de crise, tout le monde, chacun se méfie l'un de l'autre. On se méfie l'un de l'autre parce qu'on ne sait pas qui est qui. Tout le monde a les armes. Que tu sois rouge, blanc, n'importe qui avait des armes. Même les enfants avaient des armes. Donc les gens se méfient l'un de l'autre. Mais c'est après la crise où il y a eu un peu d'accalmie, les gens sont revenus à eux-mêmes. Après les tables rondes, après les différents dialogues, après la sensibilisation des marabouts, les gens sont venus en raison, et puis ils ont pu trouver la solution que le dialogue, là, rien ne vaut le dialogue.
Okay. Existe-t-il des pactes connus et arrêtés par les différentes communautés de la région de Gao?
S'il y a des pactes.
Oui. Des pactes entre les différentes communautés?
Bien sûr. Quand il y a un problème, les différentes communautés s'assoient pour discuter de ces problèmes. Et puis quand les différentes communautés, les religieux la parlent, généralement, on s'entend et on arrive à bien gérer le problème.
D'accord. Al-Mouner, la cohésion sociale est-elle liée au développement de la région?
Bien sûr, quand il y a un déficit de développement, quand il y a la pauvreté, quand il y a... Parce que parfois, là, c'est dit, quand je vous ai parlé de l'inclusion sociale comme facteur de cohésion sociale, comme les trois facteurs de cohésion sociale, l'inclusion sociale, le capital social et la mobilité sociale. Parce que ces facteurs-là sont pas... L'économie est prise en compte. Parce que quand il y a le développement n'est pas harmonieux, il n'y a pas un développement, il n'y a pas de structure qui emploie des jeunes. Parfois, il faut s'attendre à ce que le développement est lié forcément. Parce que quand dans des injustices, quand il n'y a pas une rétribution, quand le développement n'est pas pour... c'est pourquoi moi, je vous ai parlé de l'État. L'État, il est un acteur important pour appuyer la communauté à créer un cadre harmonieux dans la cohésion. L'État doit d'abord prendre en compte le chômage, l'emploi jeune. Parce que parfois, là, c'est même pas dit aux communautés. Parfois, c'est dit aux problèmes économiques qui créent parfois des tensions, qui obligent... Moi, c'est pas pour justifier le banditisme. Mais parfois, certains, si peut-être ils ont de l'emploi, ils feront jamais ils vont jamais agir contre la loi.
Donc parfois, vous êtes en train de dire tout simplement que certains profitent de la pauvreté pour agir de cette façon.
Bien évidemment, parce que parfois le manque de développement, le déficit de développement, il est aussi une source de problèmes. Ça n'aide pas dans la cohésion. Quand la pauvreté est partout, quand le sous-développement est partout, quand il n'y a pas des infrastructures nécessaires pour prendre en charge tous les besoins de communauté, ça n'aide pas la cohésion, ça n'aide pas la région, ça n'aide pas l'harmonie. Donc c'est pourquoi le développement même, le niveau de développement, est une source parfois de malentendus, est une source de tensions. Quand la pauvreté est partout, parfois ça ne peut que créer des problèmes.
Aujourd'hui, sur le point de la situation sécuritaire, Gao est touché jusqu'à quel point?
Bon, sur le plan sécuritaire, à part peut-être le centre-ville. Parce que même en dehors de poste, là, en partant vers Diobok, il n'y a rien. L'insécurité est presque partout. Les populations, leur bétail ont été emportés à 20 km, 30 km du centre-ville de Gao. Donc sur le plan sécuritaire, on peut dire dans la ville de Gao et certaines parties vers la commune de Sonia Liber, on peut dire qu'on peut circuler sans crainte. Même vers là-bas, il y a eu parfois des braquages, il y a eu vers là-bas, mais c'est pas comme vers d'autres zones. La région, il y a un problème, il y a un souci d'insécurité, mais la ville de Gao, pour le moment, elle est épargnée. Pour le moment, on peut dire qu'elle est épargnée.
Vous avez dit que les femmes arrivent à se parler. Aujourd'hui, concrètement, entre les femmes, qu'est-ce qu'elles se disent concernant la cohésion sociale? Elles se disent quoi?
Bon, entre les femmes, elles se disent que la cohésion sociale...
Allez-y.
Ok. Entre les femmes, vraiment, la cohésion sociale, comme je l'ai dit, on voit que vraiment, ça va. Et les femmes, entre eux-mêmes, ça veulent actuellement qu'il y ait de l'accalmie, que vraiment les gens aillent ensemble. Certes, il y a de l'accalmie, mais il y a un peu de mésentente. Parce que grâce aux bandits qui sont actuellement fréquents, avec les enlèvements, même avant-hier, ils ont eu à enlever des gens. Vraiment, ça cause un peu de problèmes.
On dit qu'il ne peut pas avoir un développement sans l'implication des femmes. Est-ce que les femmes sont suffisamment impliquées dans la recherche de la paix à Gao?
Oui, je dirais oui. Quand il s'agit de paix et de cohésion sociale, à quel que soit le niveau, on implique les femmes. À chaque fois qu'il y a un débat sur la cohésion sociale, sur le vivre ensemble, sur l'attente, ils font part aux femmes. Les femmes sont présentes. Et elles ont leur mot aussi à dire dans la région de Gao.
Est-ce que leur implication a apporté un résultat escompté? oui. dans le rétablissement de la paix, du vivre ensemble à Gao.
Oui, ça a apporté. Car auparavant, les femmes n'osaient pas aller dans la commune d'Anchawadi, ni dans la commune de Sony Albert ou Tilamsi. Mais actuellement, les femmes de commune Anchawadi et Tilamsi là, arrivent à venir à Gao et les jeunes de Gao aussi arrivent à les atteindre. On vit ensemble.
Ça là, c'est grâce à l'implication des femmes.
Ça, c'est grâce à l'implication des femmes.
Dans la résolution de la crise.
Oui.
D'accord. Alors aujourd'hui, de quoi les femmes ont besoin pour encore renforcer cette cohésion sociale entre les différentes communautés?
Il faut organiser des dialogues intercommunautaires. Il faut organiser des dialogues entre communautés et puis faire des tables rondes. Faire comprendre aux femmes que sans la paix, rien ne règne. Et sans le dialogue aussi, rien ne va. Donc, il faut vraiment renforcer cette côté-là.
Selon Oumu, auparavant, les femmes n'osent pas aller en Chawadi, mais aujourd'hui, grâce à l'implication des femmes, aujourd'hui, elles parviennent à aller en Chawadi. Est-ce que vous partagez cet avis?
Non, Oumu, vous voulez vous parler d'un Chawadi d'avant. Mm-hmm. Sinon, présentement, presque en Chawadi, c'est vidé de sa population. Donc, Oumu s'exprime dans le temps d'avant. Pas présentement, parce que présentement presque l'insécurité, comme moi je vous ai parlé, la région est à un niveau d'insécurité préoccupant. Il y a un niveau d'insécurité préoccupant parce que presque des villages vers Ansongo, vers d'ici jusqu'à vers Menaka, il y a des villages vidés de leur population. Donc il faut comprendre l'expression de Oumu, elle vous parlait d'avant, pas actuellement, pas aujourd'hui.
Yeah. Est-ce qu'il y a parmi, vous avez dit que Gao est entouré par des déplacés, est-ce qu'aujourd'hui il y a un dialogue franc avec ces déplacés, notamment les femmes? Je m'adresse à Oumu.
Bien sûr, avec
est-ce que
les
vous arrivez
déplacés
à parler
là.
Avec vos sœurs qui se sont déplacées?
Oui, on arrive à parler avec les femmes déplacées qui sont là, qui ont quitté toutes les recoins de la région de Gao. Mm-hmm. On arrive à discuter avec eux, on arrive à faire des formations ensemble, on arrive à faire beaucoup d'activités ensemble. Même, ça ne vaut même pas 15 jours, on a convié les femmes des différentes communautés pour leur faire savoir qu'on doit faire une activité pour faire le tissage des sacs. Donc, on est sur la voie. Et puis je crois que ça va aller, Inch'Allah.
D'accord. Alors aujourd'hui, concrètement, comment renforcer la cohésion sociale entre les femmes d'abord, avant les différentes communautés? Oui, je vous donne. Comment, selon vous, peut-on renforcer la cohésion sociale entre les femmes de la région de Gao?
Bon, là, c'est une question qui doit être posée à moi, mais je sais que les femmes savent comment faire. C'est surtout dialoguer. C'est surtout dialoguer. Et continuer à dialoguer. Parce que rien n'est plus important que le dialogue. Quel qu'en soit dans la situation, il faut dialoguer. Le dialogue, c'est le meilleur cadre. C'est le meilleur cadre. Maintenant, c'est au cours du dialogue que les protagonistes ou vraiment les acteurs sauront quelle voie est plus importante à suivre pour créer la cohésion.
Alors, Oumu, on revient à vous. Il voulait que la question vous soit adressée. Comment renforcer la cohésion sociale entre les différentes femmes?
Comment renforcer? En démarchant les femmes, en allant vers eux, et les faire comprendre et faire des cohésions, des tables rondes, comme je l'ai bien dit, mm-hmm. en faisant des formations, des sensibilisations. Donc, je crois que ça ira.
D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que les autorités régionales s'impliquent davantage dans la résolution de la crise à Gao selon vous?
Mais bien sûr, ils s'impliquent, mais vous savez, quand il y a un pays qui est en guerre, quand il y a la guerre, rien n'est facile à résoudre. Ça serait comme si tu suis sous la pluie. Sinon, actuellement, on peut dire que ça va à Gao. Parce que auparavant, on ne pouvait pas dormir. À chaque fois, il y a le coup de feu, des braquages, des enlèvements. Mais actuellement, les coups de feu ont un peu cessé parce que dans la ville de Gao, tu tires un coup de feu vers le 2, ce qui est au camp, ils viennent t'attraper. Donc, je dis que ça va un peu.
Cela, c'est après le renforcement à Gao avec les patrouilles mixtes.
Oui, avec les patrouilles mixtes, nous, on aurait souhaité que, auparavant, ils faisaient des patrouilles, opération Filidjo, qui rentraient de porte en porte pour faire sortir les engins des maisons. Nous, on aurait souhaité que ça, là, ça continue encore. Et ça a beaucoup apporté. Ça a eu beaucoup d'impact sur la ville de Gao. Parce que grâce à ça, on a eu à lever des matériels dans des maisons où on ne croyait pas qu'il y a dedans. Donc si ils continuent avec ça, je crois que ça va aller.
Ils ont arrêté pour le moment?
Bon, pour le moment, c'est pas arrêté, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable.
C'est timide?
C'est un peu réticent. Sinon, auparavant, là, ça se voyait. À chaque jour, on les voyait, ils circulaient. Même actuellement, ils font des patrouilles. Mais ce n'était pas comme l'opération Filidjo où on rentrait de porte en porte pour faire sortir. Ok.
D'accord. Selon Oumu, l'opération Filidjo a beaucoup contribué à renforcer la sécurité à Gao. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut-il encore renforcer cette opération Filidjo pour permettre aux populations de vivre en harmonie?
Bien sûr, il faut renforcer tout ce qui crée, tout ce qui apporte la quiétude aux populations. Tout ce qui peut apporter la quiétude aux populations, il faut le renforcer. Il faut le renforcer. Il faut les souhaiter et on demande à ce qu'à nos autorités de s'investir plus dans la sécurité et la quiétude pour la quiétude des populations.
Est-ce que les populations ont contribué lors de cette opération Filidjo?
Mais bien sûr, les populations parfois maintenant depuis qu'il y a eu ça là avant, il y avait des, comme l'a dit Oumu, il y avait des tirs à toutes les occasions, parfois même un simple mariage. Vous allez vous-même dans votre maison, vous allez dire que hey, y a quoi, il y a un assaut, il y a quoi. Mais depuis que il y a eu cette note là qui interdisait peut-être chez le commandant de zone qui avait fait circuler cette note. Non, ça va, parce que maintenant c'est lui qui tire pour même pour un baptême. Parfois là, c'est devenu même quelque chose de normal, alors que ça crée la psychose, ça crée la peur. Il y a des femmes parfois qui ne peuvent même pas se lever tellement elles tremblaient quand ça. Mais maintenant, comme l'a dit Oumu, depuis lors, ça va, il y a moins de tirs.
Mais est-ce que cela aussi a diminué les attaques sur les routes?
Non, les routes en dehors de Gao, les attaques continuent malheureusement. Sur l'axe Gao-Ansongo, malheureusement, le plus souvent on entend des cars attaqués, des voyageurs cambriolés, des particuliers cambriolés. Malheureusement, en dehors de Gao, ça n'a pas créé, ça n'a pas apporté, ça n'a pas eu d'incident. Oui, mais on peut dire que ça va, ça évolue. Nous espérons que la situation évolue positivement.
D'accord. Est-ce que aujourd'hui, dans la région de Gao, peut-on parler d'une sécurité stable dans l'ensemble de la région de Gao?
Non, on ne peut pas parler de sécurité stable, non. Dans la région, dans son ensemble, on peut dire que malheureusement, il y a une crainte. Il y a une crainte que, bien sûr, on peut dire, si on évalue une mesure sur les trois quarts de la région, l'insécurité est totale. D'accord. Presque la plupart des villages ont été désertés par leur population.
Au moins, le défi de vivre ensemble et de la cohésion sociale peut-il être relevé?
Bien sûr, si on se met ensemble, on pourra relever le défi.
En faisant quoi?
En se démarchant, en faisant des tables rondes, comme je l'ai dit, en faisant des formations, en faisant des sensibilisations, je crois que ça ira.
Alors, aujourd'hui, concrètement, quel est le besoin des femmes? Concrètement, vous êtes des femmes. Aujourd'hui, les femmes ont besoin de quoi? Comme sécurité, comme vivre ensemble, comme cohésion sociale, comme cohabitation pacifique?
Les femmes ont besoin d'une paix durable. D'une paix durable. Quand il y a la paix, tout peut aller. On a besoin d'une paix, d'un pays stable, pour que les femmes puissent s'épanouir. Sans paix, rien ne peut se faire.
Est-ce que par rapport aux dénonciations sur la situation sécuritaire, les femmes arrivent-elles à s'impliquer davantage, à informer les plus hautes autorités, les militaires, ainsi de suite?
Oui, les femmes arrivent à s'impliquer avec les numéros verts aussi qui existent. Pas seulement les femmes, même les jeunes, tout le monde arrive à s'impliquer. Parce que nous voulons tous la paix. Nous voulons tous qu'il y ait la paix. Nous voulons tous que la paix règne ici au Mali.
D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui la paix est-elle possible à Gao au regard de ce qui se passe sur le terrain en dehors de Gao? C'est comme vous l'avez si bien dit.
Mais bien sûr, la paix est possible. On ne peut pas dire que la paix est possible. Maintenant, c'est aux autorités ainsi qu'à tous les belligérants de cette crise de s'impliquer pour vraiment pour qu'il y ait une mise en œuvre de l'accord. Parce que peut-être il est censé nous apporter l'entente, la paix, la quiétude. Donc on ne peut pas dire que la paix n'est pas possible. Donc maintenant, c'est aux autorités et leurs partenaires de voir quels sont les moyens nécessaires pour vraiment apporter cette paix, tant souhaitée par toutes les populations.
Vous venez de le dire, il faut la mise en œuvre de cet accord. Est-ce que les communautés sont impliquées dans la mise en œuvre de cet accord?
Oui, à leur niveau, ils sont impliqués, mais il y a des acteurs clés. Il y a des acteurs clés de la mise en œuvre de l'accord. C'est l'État ainsi que en quelque sorte les acteurs clés, c'est les protagonistes. Et maintenant, les communautés n'attendent que vraiment la paix, comme l'a dit Oumou. La paix durable, une paix totale, et à tous les niveaux.
D'accord. Oumou, est-ce que dans la mise en œuvre de l'accord, les femmes sont impliquées?
Oui, dans la mise en œuvre de l'accord de la paix, les femmes sont impliquées. Mais il faut encore impliquer plus de femmes encore pour qu'il y ait la paix.
Est-ce qu'on sait le nombre de femmes qui sont impliquées ici à Gao dans la mise en œuvre de l'accord?
Bon,
au niveau de la CAFO, est-ce qu'il y a des représentantes?
Oui, il y a une représentante de la CAFO qui fait partie. Et il y a des femmes qui sont impliquées dedans, mais c'est peu. Il faut plus de femmes.
Est-ce qu'elles arrivent à faire du retour de ce qui a été décidé dans la mise en œuvre de l'accord à ce soir?
Oui. Après chaque rencontre, les femmes se réunissent et font le compte rendu. Ça, c'est obligatoire.
Est-ce que vous estimez que la mise en œuvre de l'accord peut renforcer la paix dans la région de Gao?
Oui.
Comment?
Oui. Parce que sans le DDR, rien ne marche. Il faut que les gens qui n'ont pas droit à l'arme, qu'on les retire les armes pour qu'il y ait la paix. Ceux qui en ont droit à prendre des armes. Mais ceux qui n'en ont pas droit, il faut qu'on les retire les armes pour qu'il y ait la paix. Actuellement, tout le monde apprend des armes. On fait confiance à qui? Qui doit prendre? Qui ne doit pas prendre? On ne sait pas. Même les tenues, là, on porte les tenues du femme pour faire n'importe quoi, pour saluer le nom de nos femmes. Donc, mais quand on fait le 2DR, on fait le 2DR et on retire les armes, on saura qui est qui en ce moment. Ça facilite.
Ça va faciliter le renforcement,
oui,
de la sécurité à Gao?
Oui, bien sûr.
D'accord. Alors, Almouner, aujourd'hui, concrètement, quand on regarde ce qui se passe à Gao, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan de développement social, peut-on dire que les autorités actuelles s'engagent davantage pour rétablir la sécurité et le développement de la région de Gao?
On ne peut pas apporter un jugement sur l'action que les autorités, même pour l'instant, parce que les autorités, elles sont d'abord récentes. Donc, pour porter un jugement, il faut d'abord du temps. Maintenant, quelle action d'abord de développement? Pour mener des actions de développement, il faut d'abord qu'il y ait la paix. Il y ait la paix dans toute la région. Mais malheureusement, dans toute la région, il n'y a pas cette inquiétude. Moi, je vous ai parlé des villages vidés de toute leur population. Donc comment mener des actions pour des populations qui sont d'abord maintenant déplacées?
Donc il n'y a pas des indices de la paix à Gao?
Non, parce que quand vous parlez de Gao, il y a Gao ville et il y a Gao région. Et moi je vous parle de façon un peu générale, Gao région. Dans la région de Gao, j'ai dit, il y a des communes entières qui ont été vidées de leur population. Des communes entières, pas des villages entiers, des communes entières qui ont été vidées. Donc maintenant je vous ai dit, les populations ont juste à peu près 2 ans. Donc porter un jugement sur leur action de développement, si je le porte, j'aurais peut-être tort, parce que peut-être mon jugement n'a pas pris en compte tous les paramètres qui doivent être pris en compte. Il y a d'abord un facteur d'insécurité, donc quand il y a un facteur d'insécurité, on ne peut pas mener des actions de développement.
pour mener des actions de développement, il faut d'abord la paix. Maintenant, il y a Gaouville. Gaouville, ça va, toutes ces communes qui ont été vidées, leur population, ils sont aux alentours de population. Ils sont aux alentours. Certains même sont presque même, je dirais, à l'extérieur du pays, en Algérie. Au Niger, peut-être, vous avez vu des vidéos qui ont circulé. C'est des populations maliennes, et peut-être des deux régions, la région de Manaka et la région de Gao.
D'accord. Au moins, est-ce qu'il y a des indices de la paix à Gao?
Bien sûr, il y a des indices de la paix. Car auparavant, comme je disais, on ne pouvait pas circuler normalement. On ne pouvait pas circuler normalement. Les coups de feu jaillissaient à Gao intensivement. Mais actuellement, il n'y a plus de coups de feu, je dirais. On dort même pour le braquage des gens là. Ils ne maîtrisent plus le feu. Ils viennent seulement, ils s'arrêtent devant toi avec leurs armes, tu rentres. Ou bien ils te bastonnent. Sinon, auparavant, on tire sur toi quand tu refuses. Même actuellement, les bouchers qu'on a enlevés, moi, devant sa maison, mais ils n'ont pas utilisé de coups de feu. Ils l'ont braqué, il a refusé de rentrer, ils l'ont bastonné avec un bâton. Ils l'ont pris et le mettent dans le véhicule. Je peux dire que vraiment, ça a un impact.
Un impact.
Oui, ça a un impact.
Mais toujours faut-il encore davantage mettre le renforcement sur le plan sécuritaire?
Sur le plan sécuritaire, vraiment, on veut qu'il y ait beaucoup de renforcements. Parce que dans les alentours de Gao, ça ne va pas. Tu dépasses Gao vers Ansongo, ça ne va pas. Dans la commune d'Anchawagi, ça ne va pas. Dans la commune de Tilemsi, ça ne va pas. Pour atteindre Brem aussi, ça ne va pas. Pour atteindre, comment dirais-je, Bamako, c'est pareil. Donc vraiment, il faut que l'armée soit totalement impliquée pour qu'il y ait la paix.
Alors, est-ce que par rapport à la cohésion sociale, comme vous avez dit, qu'il y a des rencontres que vous organisez, est-ce que ces rencontres-là se font au niveau des femmes rurales? Est-ce qu'elles sont impliquées?
Oui, les femmes rurales sont vraiment impliquées. Il y a, je dirais, à chaque rencontre, elles impliquent tout le monde. Parce qu'on veut aller vers le chemin de la paix. Donc il faut impliquer tout le monde, que ce soit les femmes des communes, que ce soit les femmes de la région de Gao. Il faut que tout le monde soit impliqué, et elles sont impliquées aussi. Mais on veut plus, on veut qu'elles soient plus impliquées pour que vraiment la paix règne.
D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que la situation sécuritaire se détériore au niveau des sur l'ensemble de la région. Est-ce que peut-on parler que la région de Gao est aujourd'hui exacerbée par cette insécurité?
Mais bien sûr, elle est exacerbée parce que parfois, quand dans une situation anormale, même la vie économique, elle est touchée, surtout les plans. La situation d'insécurité, elle touche presque tous les segments du mode de vie de la population, sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Donc, elle nuit à tous les niveaux. Donc, mais aujourd'hui, la région, presque, ça empêche même parfois, il y a des foires parfois. Ils viennent, ils ouvrent dans la même journée, les populations, vers 2h seulement. Ça impacte la vie économique des populations.
Le micro.
Ça impacte la vie économique des populations, la situation d'insécurité. Parce que ça leur empêche de vaguer librement, ça les empêche de commercialiser leurs produits. Donc vraiment, on peut dire qu'il y a certains marchés, les commerçants ne peuvent pas, ils ont la trouille d'aller vraiment, d'aller dans ces marchés-là, dans ces contrées, dans ces zones, faire des affaires. Donc ça impacte la vie économique de la population, la région de Gao.
Est-ce que les acteurs de groupes armés, selon vous, s'impliquent davantage dans la sécurisation de cette région ou du désarmement?
Non, malheureusement, non, malheureusement. Les groupes armés signataires de l'accord ne s'impliquaient pas du tout. Et au moment, il y avait le MSA de Moussa Gachatman et puis du Gatia qui ont eu à affronter, ont essayé de faire des efforts, mais malheureusement, ils ont été complètement. Ils essayent de faire de leur mieux. Maintenant, pour les autres, là, à un moment, j'ai entendu des patrouilles de la CMA, mais ce qu'elles ont fait, ça, je n'en sais pas. Ça, je n'en sais pas. Mais un moment, sur les canaux de leur communication, ils parlaient des patrouilles pour ramener la quiétude. J'ai vu même, je ne sais pas, un bétail à ramener. Même Gatia, un moment, a pu récupérer un bétail emporté vers pas loin de Gao. Ici, ils l'ont ramené pour le restituer aux populations, à leurs propriétaires. Ils essayent tant que mal, mais apparemment, ils n'ont pas les moyens de jouer, ils n'ont pas les moyens de leur ambition, en quelque sorte, je peux dire.
La fracture sociale est-elle encore préoccupante ou est-elle rassurante?
Elle est rassurante. Elle est pas rassurante.
Comment?
Parce qu'on arrive à collaborer ensemble, on arrive à faire des formations ensemble, comme je voulais dire, on arrive à faire des activités ensemble, donc je peux dire que vraiment, elle est vraiment.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous attendez des autorités nationales, pas régionales, mais nationales, pour renforcer davantage la sécurité de la région de Gao?
On attend d'abord, on dit pour la sécurité, il faut l'éclairage. Gao
est dans le noir.
Très bien. Gao est totalement dans le noir. Et on n'a pas d'eau potable. Quand il y a sécurité, en parlant de sécurité, c'est vrai, on veut que les armes chassent, mais il faut au moins qu'il y ait l'éclairage. Parce que quand il fait sombre, on donne l'opportunité aux gens de profiter. On donne l'opportunité aux gens de profiter. Et nous voulons que vraiment, on ne dirait pas que l'État n'a pas fait. L'État a fait, il a beaucoup fait. Et nous voulons aussi que l'État il renforce beaucoup nos militaires pour qu'ils aillent au front, pour que vraiment la stabilité vienne, pour que le pays même soit totalement libre.
D'accord. Est-ce que c'est le même souhait chez vous également?
Bien sûr, c'est le même souhait. On souhaite à ce que les autorités au niveau national redoublent d'efforts pour vraiment répondre à tous les besoins des populations de la région de Gao. Parce que sur le plan sécuritaire, les besoins sont immenses. Sur le plan de développement, les besoins aussi sont immenses. Donc parfois, il y a une crise. La région, on peut dire qu'elle est même enclavée. Parce qu'il n'y a plus la route Gao-Sévaré. Donc c'est là vraiment impact la vie économique de la région. Donc nous demandons à ce que les populations redoublent d'efforts sur le plan sécuritaire et puis sur le plan même économique, qu'elles apportent une assistance économique à la région. Parce que la région, elle est presque dépouillée de son bétail. Dans le milieu rural, des milliers et des milliers de têtes ont été emportées. Et cela impacte la vie économique de la région. Et le volet sécuritaire, l'axe Gao-Ansongo-Niger, ça aussi impacte. Parce que parfois, c'est pas il y a des camions, il y a tout le temps des braquages, malheureusement. Donc vraiment, nous demandons aux autorités à ce qu'elles s'impliquent davantage, qu'elles redoublent les efforts pour apporter la sécurité, mais aussi qu'elles aident sur le plan économique.
D'accord.
Éducatif et sanitaire. Parce que parfois, là, il y a des évacuations sur Niamey. On peut dire que nos pharmacies, il y a certains produits qui sont tous Gao de leur pharmacie. Il y a des produits introuvables. Donc, à tous les niveaux, la région est presque... La région souffre. Donc, nous demandons aux autorités de s'investir d'abord dans la sécurité et après les actions de développement, la vie économique de la région.
D'accord.
Pour un peu alléger les souffrances des populations.
D'accord. Mais est-ce que on arrive aujourd'hui, comment à maîtriser le vivre ensemble et la cohésion sociale à Gao? Peut-on maîtriser cela aujourd'hui?
Mais le vivre ensemble, je vous ai déjà dit qu'il y a des cadres, il y a les leaders communautaires, il y a les leaders religieux, il y a la jeunesse, il y a les femmes. Tout le monde à son niveau essaye de faire de son mieux pour qu'il y ait la cohésion. Moi, je vous ai parlé d'insécurité parce que quand il y a l'insécurité, tout ceci là, c'est des symptômes que l'insécurité a griffé dans la vie des populations de Gao. C'est l'insécurité, c'est venu avec l'insécurité. Donc quand l'insécurité sera résolue, toutes les petites méfiances là, que les uns et les autres peuvent avoir à raison ou à tort envers les uns et les autres, ils vont disparaître.
Voilà, merci. C'est sur ce mot de Al-Mouner Ag Mohamed Ahmed, suite que prendra fin à ce grand dialogue qui réfléchissait sur comment renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique à Gao. Et nous étions avec Oumou Diallo, secrétaire administrative de la CAFO Gao, Al-Mouner Ag Mohamed Ahmed, leader jeune. Comme je le disais au début de cette émission, toutes nos tentatives pour avoir un représentant de la communauté arabe sont restées vaines. À la présentation, je suis Imrana Akilo Maïga. Ce débat a été coordonné par Maria Maïga à la régie vidéo et mise en nom de Gagny Kanté. Et à nous, je dirais merci de l'avoir suivi. À la prochaine pour un autre débat.